ce matin, depuis le Presidio de Venaus, si je prononce pas trop mal, j'ai envie de vous faire une petite pastille sonore sur le psychotrauma. Hier soir, il y avait de la musique, c'était cool, c'était une belle fête. Et puis, vers 3h du matin, à la fin, un peu de tech avec des bonnes grosses basses qui faisaient vibrer le matelas. Et donc, on en parle ce matin au petit-déj. Et puis, quelqu'un dit: ah, bah, j'ai bien dormi, mais alors, quand il y a eu les basses, ça m'a rappelé Sainte-Soline. Ah, alors, du coup, on a parlé un peu de ça. Et en fait, on s'est dit: bah, tiens, ça ferait peut-être une petite pastille. Alors, j'essaie de la faire courte, mais en gros, le psychotrauma, les amis, ça regroupe trois séries de signes: les réviviscences, c'est-à-dire des flashbacks, des images qui reviennent, des trucs comme ça, l'hypervigilance et l'évitement. Et l'évitement, ça permet d'éviter les trucs qui stimulent les réviviscences. Par exemple, éviter la techno si on a l'impression que le boom-boom rappelle les explosions de Sainte-Soline. Et ce que je voulais dire, en fait, ce que j'ai dit aux camarades et que je me dis qu'il peut être intéressant à partager là, c'est que ça se guérit, le psychotrauma. Les souvenirs traumatiques, ils vont rester des souvenirs traumatisants, enfin qui ont traumatisé, mais par contre qui ne nous traumatisent plus. Il y a des techniques, alors il y a en gros deux grosses techniques. Le MDR, c'est le truc avec les yeux qui bougent de droite et de gauche là, et puis un truc avec des bêta-bloquants. On raconte son histoire sous un médicament, un vieux médoc qui sert pas du tout à ça normalement, et on sait pas du tout comment ça marche, mais ça marche assez bien. Et donc, si vous voulez évaluer votre niveau de psychotrauma, vous pouvez utiliser une échelle d'évaluation, d'auto-évaluation, qui s'appelle l'IESR, Impact Evaluation Scale Revisited, je crois. J'ai pas très bien dit Revisited. Bon, bref. Avec ces techniques-là, le score que vous avez au début, il baisse. Chez la plupart des gens. Ce qui n'empêche pas de faire une psychothérapie pour voir la place qu'a ce psychotrauma dans votre vie, dans vos vies. Mais vraiment, le psychotrauma, il vient du moment où on dissocie, en fait. On dissocie, ça veut dire qu'on est dans une situation tellement stressante que ce soit dans ce moment-là, mais ou non, quand on est victime d'une agression, sexuelle, quand on a peur pour sa vie, en fait. L'agression sexuelle étant un truc qui fait peur pour sa vie. On dissocie, les gens disent: ah, je suis sorti de mon corps, j'étais plus là, j'étais absent, j'étais mou, j'étais inerte, etc. Ou bien j'étais en mode zombie, en mode automatique, en mode... Ça, c'est des signes de dissociation. Et en fait, la dissociation, ça produit du psychotrauma, plus ou moins fort selon le niveau de la dissociation. Et donc, ce psychotrauma, il se traite comme ça. Et la psychothérapie classique, parce que ce truc-là, c'est vraiment du truc qui vient des cognitivistes, des thérapies cognitives ou comportementales, si je dis pas trop de bêtises, je crois que là je dis peut-être une connerie, bon, on s'en fout. En tout cas, il n'y a pas deux courants opposés dans cette question-là, il y a deux modalités complémentaires, et puis tout est possible entre les deux. Voilà, donc ne restez pas seul avec vos psychotraumas, si vous avez des sursauts, je sais pas, moi je me rappelle un jour, je vois un ami pouvoir faire normal, et je dis: ah, il va nous tirer dessus. Ça c'est un signe qui nous est en valise.
On réquisitionne juste l'espace public comme la flicaille réquisitionne les crous pour les JO. Tu veux jouer? Okay. On va comparer les victimes de l'un côté des bagnoles brûlées et des vitrines. De l'autre côté t'as des morts, mais c'est tout le temps ta faute. Et 343 meurtres depuis 2010. Et au JT jamais on en parlera. C'est aussi peu surprenant qu'un copine d'antifa. Mais nous on n'oublie pas, n'en comptez pas là-dessus. Même s'il fait trop chaud pour les cagoules. futur dystopique. L'un est du pire, il fait par la sueur qui brûle et qui pique. Plus ça va, c'est plus tu regrettes tes élans patriotiques. Comment qu'il fait bon, ça donne envie d'aller casser du cœur.
Une équipe, une délégation qui nous vient plus au nord. Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi?
Alors cet après-midi, on est venu à une présidio et on a visité le chantier qui fait que il y a un papillon qui n'existe plus dans cette région. Les gens qui ont habité dans ce présidio ont dû déménager. Et en fait, on voit que la nature est vraiment détruite à cause de ce chantier. On a parlé de ces faits, je pense.
Attendez devant. Et vous, je sais pas, est-ce que ça vous a fait un truc spécial cette visite-là par rapport à vos propres histoires de vie?
Ouais, bien sûr, c'est très encourageuse. Il y a plein de gens qui sont vraiment investis dans l'environnement et la nature et tout ça. Et ça fait du bon, du bien.
Ouais. Moi, ça me fait un peu mal au cœur de voir que... Comme on a dit aux policiers, c'est pas nous les éco-terroristes en fait. Il y a vraiment beaucoup de gens qui voient pas la destruction de la nature qui est hyper important pour nous tous, parce que c'est la nature qui fait la base de nos vies. On peut pas vivre sans la nature et ça c'est vraiment visible ici. On peut pas échapper. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment... C'est aussi dommage que c'est que nous qui voient ça maintenant. Il devrait y avoir plus de monde qui fait cette balade.
Vous avez aimé alors ce petit format passaggiata, balade, the pass, you like it, you enjoy the way they organize to show us?
Absolut, ja. Also ich war generell, ich habe glaube ich sehr viel mitgenommen für auch Aktivismus in Deutschland, weil man einfach wirklich... weil es hier einfach eine ganz andere Dynamik hat als Proteste bei uns in der Region. Und ich finde es auch wirklich sehr wichtig, dass man es schafft, eben auch über Ländergrenzen eben hinweg Proteste zu organisieren. Speziell jetzt bei der No-Taf-Bewegung kann man das gut nachvollziehen, weil hier eben direkt, also Frankreich und Italien betroffen sind. Und ich denke, es ist eben wichtig, halt, sich nicht nur auf sein eigenes Land zu beziehen, sondern eben auch sich über Ländergrenzen hinweg eben zu organisieren. Genau.
Merci. Moi, j'ai pas compris, mais merci.
Was ich auch toll fand, war hier Informationen, also diese Wanderung mit eben Informationen zu verbinden und eben endlich mal ein Bild vor Augen zu haben, was denn die No-Tough-Bewegung genau ist und eben nicht nur Sachen online zu lesen, sondern wirklich vor Ort zu sein und auch eben hier die alten Mühlen eben wirklich greifbar zu haben und zu sehen, was hier wirklich angerichtet wird. Genau.
Qu'est-ce que les idées fortes qu'il a dit?
Donc, en fait,
mais pas tout, mais les idées fortes.
C'est super important de se connecter aussi au niveau international et de s'échanger et de voir comment les autres font du protest et comment les autres militants s'organisent. C'est hyper important et voilà, on est content de pouvoir faire ça ici. Was hast du danach gesagt?
Das Freitag zu machen hier, dass man eigentlich die No-Tough-Bewegung irgendwie an vor Ort sehen kann, was zerstört wird und wo eben eingegriffen wird.
Oui, et avec cette balade, ça nous permet de voir sur place pourquoi on fait ce protest et ça rend les choses plus concrètes et c'est vraiment différent que de faire des recherches en ligne, par exemple. C'est, voilà, c'est très différent et beaucoup plus efficace et important.
Moi, je suis pour monter une sorte d'international touristique de lutte, mais vraiment de lutte.
Ouais.
Et en tout cas, aller sur place, quoi. On a vraiment besoin. Mm-hmm.
Oui, c'est clair. Je pense que c'est ça que... on voit ici, qu'on ressent aussi nous.
Voilà. Et avec des camarades en France, on voulait organiser vraiment une rencontre de la marche et la lutte et le fait d'avoir les mégaphones, de comment on raconte sa lutte, mais par une balade dans le territoire, quoi. On peut faire des films, on peut faire des radios, on peut faire des livres, on peut faire des blogs, mais vraiment comment emmener. Et ça, c'est un travail qui serait intéressant de se former à faire ça. Former, parce que souvent, c'est les mêmes gens qui vont parler.
Oui.
Et du coup, on pourrait vraiment se former.
Ouais, voilà. Je pense aussi que, comme la deuxième question, on était sur les sentiments.
Ouais.
Je pense que les randonnées, en fait, ils ont ce pouvoir des sentiments qui sont peut-être plus impressionnants que... de lire des choses ou de voir des films, même si ça peut être ça peut avoir un grand impact aussi, mais c'est différent.
Ça marche, merci à vous.
Non mais tu vois pas, que la planète brûle, tous ces dégâts qui s'accumulent, vous faites semblant, nous on n'a plus le temps. La montagne tremble et perd son eau, y'a plus que descendre, ce projet mégalo est un vrai carnage. Ça fout la rage, tum tibilum tim tibilum pa. Mon avion et de camion, un projet contre la pollution. Complètement bidon, tum tibilum tim tibilum pa. Avec vos politiques capitalistes, vous êtes obsédés. racine. La terre qui crée du poison dans vos bouches d'opportunistes. Nous accro à l'argent, mais rien à foutre du vivant. On n'en peut plus de vous, cassez-vous, vous êtes aussi. Entre Lyon et Turin, il y a déjà des trains. Votre projet inutile est assassin de tous nos biens communs et sans remords aucun. Souveraineté paysanne, relocalisation, nous on manque pas d'idées dans cette situation mortifère dans laquelle tout droit vous nous menez. Emploi local, innovation, un trait d'union entre nations. Complètement bidon. Votre vieux monde est en train de s'écouler. Comme un ex-toxique, vous dégagez et croyez bien qu'on est organisé. Rien ne peut nous dissoudre, soulèvement déjà commencé. La terre n'est pas à vous, cassez-vous, vous êtes aussi. Les criminels, c'est vous, cassez-vous, vous êtes toxiques. Cassez-vous, vous êtes aussi. Pas de tête dans les Alpes, cassez-vous, vous êtes toxique.
On a découvert que le projet, ça a complètement, c'était complètement faux ce qu'ils essayaient de faire. C'était d'ailleurs quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Le collectif de Turin a demandé et a reçu les documents de ce projet. Qui a démontré que, suite à un autre élargissement qui a eu lieu en 2020, la population des papillons qui étaient là-bas près des moulins a été complètement exterminée. Et donc du coup, il n'y avait pas de possibilité de déplacer cette population parce que déjà, elle n'y était plus. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a seulement pu découvrir récemment en regardant les documents, parce que tout simplement, ils ne voulaient pas faire sortir cette nouvelle après avoir dépensé beaucoup d'argent sur ce projet de greenwashing. L'autre espace occupé avec où il y a le camping. Et là, pour ce soir, les camarades du centre social proposent qu'on se pose, qu'on aille manger tranquillement. Ils vont nous offrir une bière ou un verre pour nous détendre un peu. ils sont un peu désolés parce qu'en fait, on aurait dû attendre un peu à l'entrée. Ils avaient prévu un autre accueil là-bas, mais vu qu'on est arrivé un peu vite, voilà, c'est pour ça que... On est trop rapide. On est trop rapide. Mais bon, est-ce que vous voulez qu'on reparte?
On fait un petit tour de l'humour.
Théâtre.
Et ensuite, quand on sera prêt, vers 21h, on pourra commencer. Il y a une petite discussion prévue sur des sujets qui nous concernent, l'extractivisme, l'eau, etc. On va passer à une discussion un peu sérieuse d'emblée pour se mettre dans le bain. Et voilà, ce sera un peu la soirée. Et pour les espaces de camping, il y a les espaces de camping là-bas pour l'instant.
Ah putain, je l'ai roulé.
Donc peut-être on fait ça et il y a pendant la discussion, faut voir comment on s'organise. C'est vraiment à 4 minutes à pied le camping. Il y a les douches, il y a les sanitaires, il y a tout ce qu'il faut là-bas.
Les aspects pratico-pratiques, si vous avez les portes et talkie-walkie, rendez-les à qui vous savez. Également, si vous pouvez évacuer vos sacs du même taux et les mettre dans le centre social, avec le canot puisse être libéré le mieux possible.
Les sacs, c'est quoi le rapport avec le sac et le...
Il y a déjà
tout mis
dans le sac.
Ah, dans le canot,
d'accord. Dans le vélo, les gens ont trouvé énormément de sens dans ce combat. C'était une évidence. Et donc, depuis 3 ans maintenant, à travers les modes d'action qu'on a déployés, on a réussi à créer un rapport de force très intéressant autour des mégabassines, ce qui nous a permis de créer un espace de discussion où il y a énormément de luttes autour de l'eau et pour le partage de l'eau, un peu partout dans l'Hexagone, mais aussi au-delà, qui sont pu se retrouver dans le Marais Poitevin, et on a pu échanger autour de ces questions-là.
Quindi non avrò molto tempo per appunto entrare nel dettaglio del perché c'è questo link, però appunto quello che mi interessava dire è nel momento in cui abbiamo appunto messo in atto questo collegamento, le persone hanno è risuonato subito con le persone e quindi nel giro di 3 anni siamo arrivati a costruire veramente un movimento molto forte e in questo modo anche un rapporto di forza rispetto alla lotta contro i megatossini che è molto forte e interessante e che ha permesso appunto per esempio con Vadelò la costruzione di uno spazio di discussione tra tutte le varie e diverse lotte che mettono al centro appunto il tema dell'acqua.
Et donc depuis cette lutte, en fait, c'est venu aussi irriguer plein d'autres luttes. Il y a plein de combats un peu partout en France qui ont émergé autour de cette question-là ou qui ont pris cet angle d'attaque pour critiquer et cibler des projets.
E quindi appunto sono state messe insieme e in dialogo tutte le lotte per l'acqua che ci sono in giro per tutta la Francia.
Et au fil des manifestations, on a aussi organisé là dernièrement encore cet été, en juillet dernier, plusieurs mobilisations internationales. Donc vous avez entendu sans doute parler de Sainte-Soline l'année dernière, qui a eu des affrontements assez violents. On a aussi organisé une deuxième mobilisation internationale donc en juillet dernier, qui ont fédéré, et on a, lors de ces manifestations, beaucoup de gens qui sont venus de partout en France et de l'international pour venir nous soutenir à ces occasions, et je crois que je reconnais un certain nombre de personnes ici dans la salle qui étaient venues nous soutenir, et ça c'était vraiment un appui, un soutien très précieux pour nous. Et donc, de là est née notamment cette idée de traverser des luttes de l'eau pour venir rendre l'appareil, marquer aussi un geste de réciprocité et de remerciement.
Et quindi appunto, con questa connessione sono nate anche tutte le mobilitazioni internazionali che ci sono state. C'è stata una a marzo dell'anno scorso che, di cui forse avete sentito parlare, che è quella di Sansolin, che è diventata anche forse celebre per la violenza della risposta della polizia, ma appunto ce n'è stata anche un'altra lo scorso luglio, che ha visto appunto la partecipazione di moltissimi comitati in realtà del territorio francese, ma non solo, appunto da tutta Europa e da tutto il mondo. E infatti diceva che riconosce i visi di molte persone che ha visto, che in questa sala sono presenti e che ha visto nelle mobilitazioni internazionali. E quindi appunto da questo sostegno che c'è stato nei confronti appunto delle lotte per l'acqua in Francia è partita l'idea del convoglio dell'acqua per restituire appunto questo sostegno e questa solidarietà.
E donc on a immaginé cette grande traversée, cette première grande traversée du Marais Poitevin, vin qui est baptisé aussi la Venise verte parce qu'il y a plein de canaux et jusqu'à la lagune de Venise et sur l'étape on a en chemin faisant on a fait plusieurs étapes, on a fait 5 étapes plus exactement pour venir rencontrer, renforcer les liens avec un certain nombre de collectifs qui se battent, de collectifs d'habitants qui se battent aussi contre des projets d'accaparement de l'eau ou simplement en réaction à des pollutions de leurs rivières et de leurs territoires.
E quindi appunto abbiamo costruito questo convoi de l'eau, questo convoglio che ha fatto appunto 5 tappe partendo da Marais Poitevin e che ha messo insieme appunto diversi collettivi, diverse realtà che si occupano di appunto delle lotte contro l'accaparramento da una parte e contro l'inquinamento dall'altra dell'acqua.
C'était vraiment très important pour nous de montrer que ce combat pour l'eau, pour le partage de l'eau, c'est vraiment un combat qui se mène et qui doit se mener au-delà des frontières et qu'on doit construire quelque chose qui est quelque chose de l'ordre d'une internationale de l'eau.
E quindi appunto vorremmo semplicemente ribadire che le lotte per riappropriarsi delle risorse idriche devono assolutamente essere devono portarsi al di là delle frontiere, perché appunto soltanto così vinceremo e soprattutto bisogna costruire una internazionale delle lotte per l'acqua.
Je vais laisser la parole à deux camarades qui font partie de collectifs locaux qui faisaient partie de cette traversée et qui vont raconter aussi un peu pourquoi leurs luttes sont concernées par l'eau.
Quindi appunto passo la parola a due compagni che hanno partecipato alla carovana dell'acqua e che fanno parte di due comitati locali e che appunto racconteranno un pochino della loro esperienza nei loro territori.
Salve a tutti, salve a tutte. Io faccio parte del collettivo Stop Nico, è un collettivo che è a Grenoble, nelle Alpi francesi, e che lotta contro lo sviluppo le estensioni piuttosto di due industrie della microelettronica, la ST Microelectronics, che è una multinazionale franco-italiana che magari conoscete, un'industria molto importante. Siamo un collettivo che è nato nel 2022 dopo un'estate dove c'era una grande siccità nella nostra città di Grenoble e Alpi, e in questo periodo di grande siccità il presidente francese è venuto a annunciare l'estensione di questa fabbrica per raddoppiare la produzione di microchip. Il microchip è quello che è alla base di tutti i sistemi elettronici, ne avete usato nei telefoni, nelle macchine, nella radice, eccetera. E quindi il collettivo è nato perché questa industria della microelettronica utilizza tantissima acqua corrente. Per darvi un'idea, dopo l'estensione la ST consumerà più o meno un megabacino di Sansolin tutti i 22 giorni, il che è enorme, e parliamo di acqua corrente. E quindi noi come collettivo volevamo ricentrare il dibattito che c'è sull'ecologia, perché oggi sappiamo tutti che c'è una crisi climatica, che il nostro modo di vita non è compatibile con i limiti del pianeta, ma nello stesso tempo c'è questo discorso molto forte sul fatto che lo sviluppo tecnologico andrebbe a salvarci del disastro ecologico. E noi volevamo mostrare che dietro le ingiustizie socio-climatiche e il cambiamento climatico ci sono dei responsabili, e i responsabili principali sono le industrie e un settore in particolare che è il settore del digitale. Quindi vi faccio vedere la nostra bandiera. Allora, come vedete è scritto De l'Opa di Plus, il che significa acqua, non ci. L'acqua perché è qualcosa di molto concreto, quando si parla di acqua, del fatto che c'è la siccità, che l'acqua ce n'è meno, fa paura a tutti, ci sentiamo tutti coinvolti dalla questione dell'acqua. E quindi partendo di qualcosa di molto concreto, noi abbiamo mostrato che la materialità dell'industria del digitale, spesso si va detto che il digitale è qualcosa che è dematerializzato, in realtà no, c'è consumo eccessivo di acqua, ma c'è anche, scusate, mi dico italiano non è perfetto, c'è anche il problema delle miniere, dell'estrattivismo che fa il gioco dello sfruttamento del sud, dal nord, la vera domanda che volevamo fare è questo sviluppo del digitale, del mondo oltrepenesso, volevamo sai che ci sono dei limiti, che non è compatibile con un discorso sull'ecologia, e che la transizione ecologica non sarà mai digitale e non potrà mai farsi rimanendo nel sistema capitalista. Sono stata molto breve, ma era molto importante per noi essere qua oggi in Italia, perché come l'ho detto la ST è una multinazionale franco italiana e attualmente c'è un ampliamento enorme che sta occorrendo a Catania in Sicilia. Sapete che a Catania e in Sicilia in generale c'è un problema enorme con la siccità, e pensiamo da noi che ci sono nostri da condurre dappertutto, sia in Francia sia in Italia, perché infatti il capitalismo, il tecnocapitalismo non ha frontiere, dappertutto va combattuto. E solo per darvi un'idea di dove vanno questi chip che sono prodotti dalla ST, i principali clienti sono Tesla, SpaceX, Starlink, i satelliti di Elon Musk, Apple, questi sono i principali clienti. E c'è anche una parte della produzione che spesso va nascosta, ma che è essenziale. L'utilizzo dei chip per l'industria della guerra. L'anno scorso hanno ritrovato nei droni russi utilizzati in Ucraina dei chip della ST, che non aveva neanche, la ST ha venduto dei chip alla Russia senza rispettare l'embargo, e dappertutto anche a Gaza si ritrova dei chip di queste industrie di merda che vanno combattute. Ecco,
à tous, bonjour à toutes. Je vais me présenter rapidement, je suis Julien, je suis un des porte-parole du collectif citoyen Bastille Merci, qui s'est créé en Deux-Sèvres en 2017.
Buonasera a tutti e tutte, io mi chiamo Giuliana e faccio parte, sono il portavoce del collettivo Cittadina di Bassino Merci, si è formato nel 2017.
E je vais assez rapidement vous parler du territoire d'où je viens, puisque ce territoire a été le premier territoire en France où les premières méga-bassines ont vu le jour, et il y a de ça maintenant presque 15 ans. Je viens d'un territoire qui s'appelle le Marais Poitevin. Le Marais Poitevin, c'est la deuxième zone humide de France. C'est un très grand marais, c'est une espèce de lagune immense qui, jusqu'aux alentours de l'an 1000, rentrait près de 100 km dans les terres et qui, depuis 1000 ans, a fait l'objet d'un aménagement hydro-agricole qui avait jusqu'à maintenant su ménager les différents enjeux, à savoir gagner des terres de culture, tout en permettant à ce que ce soit un territoire qui reste viable pour l'ensemble des êtres vivants de ce territoire. Je viens parler des humains et des non-humains.
Ecco, appunto, vi parlo del territorio da cui provengo, che è Marais Poitevin, dove appunto l'estrattivismo si sviluppa, ecco, e si manifesta attraverso lo sfruttamento dei terreni agricoli e la mala gestione dei terreni agricoli.
Pour vous présenter un petit peu ce territoire, c'est une vaste cuvette qui récupère l'eau de près de 600 000 hectares, qui fait 100 000 hectares, et où tout est situé entre 0 et 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est donc à la fois une zone qui va présenter un grand intérêt du point de vue de la biodiversité, puisque c'est une des principales haltes de migration de tout un tas d'oiseaux en Europe, et à la fois comme c'est un territoire qui reçoit tous les sédiments et toute la richesse de sol de tous les bassins versants, c'est aussi un territoire qui a un haut potentiel sur le plan agronomique.
E quindi appunto questo territorio dal punto di vista diciamo idrogeologico, ve lo descrivo, appunto è una zona di 5.000 ettari che è appunto molto, molto bassa sul livello del mare, quindi recupera moltissima acqua e rappresenta un'oasi di biodiversità, per esempio appunto ospita moltissimi ilichi, moltissimi uccelli migratori. E poi rappresenta una grandissima ricchezza del suolo, perché appunto raccoglie tutti i sedimenti dei bacini versanti.
Pour vous présenter ce territoire, il faut imaginer pour les deux tiers quelque chose qui ressemble beaucoup à l'image qu'on peut se faire de la Hollande, des grands espaces, des grandes cultures avec aujourd'hui beaucoup de céréales, et puis un tiers de cette surface qui est un véritable labyrinthe aquatique avec des arbres magnifiques, avec tout un quadrillage, avec traditionnellement une activité basée sur le maraîchage et sur l'élevage. Et comme c'est un très beau territoire, depuis les années 50, en fait depuis les congés payés, et en fait avant la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu un haut lieu du tourisme. Et c'est pour ça que ce territoire, aujourd'hui, est encore appelé la Venise-Verte. territoire qui a d'abord fait l'objet d'une gestion très fine, qui me fait beaucoup penser à ce qu'on a pu venir voir les dernières étapes dans le Val de Suse, avec tous ces aménagements par terrasse, un aménagement hydroélectrique très fin, avec une très grande connaissance du territoire. Et où en réalité, depuis maintenant les années 70, ce territoire est complètement déséquilibré, et en grande partie déséquilibré par rapport à une plante qui est devenue un petit peu l'or jaune de notre territoire, qui est le maïs. Maïs qu'on a pu également voir lors de notre traversée de la vallée du Pô et qui a pris toute la place. Et ce maïs qui, chez vous comme chez nous, représente un très très gros désavantage au plan agronomique, a une vraie grosse difficulté, c'est que son pic de consommation d'eau est en juillet-août, au moment où l'eau est la plus rare. Et par conséquent, depuis que le maïs s'est développé sur ce marais poitevin, depuis les années 70, on a une véritable déstructuration et on a des sécheresses récurrentes sur ce territoire qui, comme je vous l'ai dit, à la base, était la deuxième zone humide de France et où toute l'histoire du territoire, ça a d'abord été de lutter pour assécher les territoires. Et aujourd'hui, de manière chronique, on a des sécheresses qui arrivent chaque année systématiquement et avec tous les effets que ça peut avoir sur l'ensemble du vivant et l'ensemble des activités qui sont autres que les activités d'agro-industrie.
E quindi appunto all'inizio, ancora diciamo prima degli anni 80, questo territorio è stato caratterizzato da una gestione molto sapiente che ci ha fatto pensare quando appunto siamo passati per la Val di Susa a delle connessioni, appunto una gestione molto sapiente diciamo caratterizzata dalla conoscenza del territorio. Poi appunto da partire dagli anni 80 c'è stato un grandissimo squilibrio che è stato portato dalle grandi coltivazioni di mais. L'abbiamo visto anche tra l'altro attraversando la Valle del Po, come questa coltura abbia distrutto l'intero paesaggio e appunto questo mette in relazione il mio territorio con il vostro. E appunto le coltivazioni di mais sono incredibili, hanno bisogno di moltissima acqua e appunto adesso nel nostro territorio ci troviamo a lottare costantemente contro la siccità cronica. E quindi questo ha un impatto sia appunto ambientale su tutti gli esseri viventi che popolano questo territorio, ma allo stesso tempo sulle attività umane.
À tel point que des associations de protection de l'environnement, dans les années 90, ont multiplié les recours pour faire reconnaître au niveau européen qu'en fait, spécifiquement, sur le cas du marais poitevin, la France ne tenait pas ses engagements européens en termes de protection de la biodiversité, notamment sur la directive visant à protéger les oiseaux migrateurs et sur la directive visant à protéger les milieux naturels dans leur diversité, notamment les zones humides. Et à tel point que la France a été condamnée par la Cour européenne de justice pour non-respect de ses directives. Et ça a mis un spell, un foin, ça a créé beaucoup de conséquences derrière ça. La France a été condamnée et devait payer une très forte amende. Et à ce moment-là, le gouvernement de l'époque a trouvé une solution extraordinaire qui leur a été vendue par les tenants de l'agro-industrie. Et cette solution, c'était la méga bassine.
E quindi appunto la distruzione era così evidente che negli anni 90 le associazioni di protezione ambientale hanno iniziato una causa contro lo Stato francese e hanno diciamo spinto molto per la protezione delle zone umide, per la protezione degli uccelli migratori e appunto questa causa è stata vinta e la Corte Europea di Giustizia ha condannato la Francia per appunto questo comportamento e l'attacco alle zone protette. Però quali sono state le conseguenze di questa diciamo di questa sentenza sono state che lo Stato francese ha cercato una soluzione, ovviamente non è stata una soluzione che mettesse veramente in dubbio il sistema agricolo intensivo, ma appunto ha pensato ai mega vaccini.
E en voyant le thème de ce soir, je me suis aperçu qu'en fait, chez nous, le thème d'extractivisme, c'était pas un terme qu'on utilisait. On a cette représentation, en tout cas j'ai celle-ci, que l'extractivisme, ça concerne plutôt des logiques prédatrices de pays du Nord vers des pays du Sud. Et celle dans votre pays, entre le Nord et le Sud, eh bien, il y a ces logiques-là qui s'appliquent. Et finalement, le fait de poser ce mot-là et d'y réfléchir un petit peu, oui, très clairement, ces méga-bassines correspondent à de l'extractivisme. Elles correspondent à de l'extractivisme déjà par les méthodes qui sont utilisées. Ce sont de très lourds travaux, ce sont des millions de mètres cubes qui vont être brassés. Grosso modo, une méga-bassine, c'est un cratère creusé dans le sol, dans une roche dure, une roche calcaire, jusqu'à 15 mètres de profondeur, sur des surfaces qui peuvent atteindre 20 hectares. Et tout ce qui est retiré, excavé, est ensuite disposé en digues tout autour avec des digues qui font jusqu'à 10 mètres de haut. Or, notre territoire n'est pas étanche, le calcaire est poreux, et par conséquent, si le but est de capter et de voler de l'eau, d'accaparer de l'eau, il faut étanchéifier avec du plastique. Donc les bassines, c'est aussi des millions de mètres carrés de plastique qui sont posés et qui artificialisent complètement, qui stérilisent de manière irrémédiable des terres agricoles fertiles. Donc, premier élément qui va dans le sens de l'extractivisme, la méthode et technique utilisée. Deuxième élément, c'est les logiques politiques qui aboutissent à la construction de ces méga-bassines. Ou très clairement, de la même manière que des industries minières vont aller piller des ressources à l'autre bout de la planète, là encore, on a des pouvoirs centraux et des lobbies qui font des équipements payés par de l'argent public et sans aucune prise en compte de l'impact sur la population et sur l'ensemble des êtres vivants qui vivent sur ces territoires.
E quindi appunto vedendo anche un pochino il tema del dibattito, appunto si parla di estrattivismo, siamo abituati e abituate a pensare che l'estrattivismo riguardi soltanto le dinamiche tra nord e sud globale, come vengono chiamati, ma invece vediamo come l'estrattivismo, il paradigma dell'estrattivismo sia assolutamente calzante anche all'interno del contesto europeo e all'interno del contesto francese. E questa cosa si può comprendere sia dal punto di vista dei metodi che dal punto di vista delle logiche politiche che si nascondono dietro. A come si articola l'agire. Ecco, quindi appunto parlando dei metodi, che cosa sono i mega bacini? Sono dei crateri di milioni di metri cubi che arrivano a 15 metri di profondità e che arrivano a 10 metri di altezza, diciamo, al di sopra del livello del terreno e che possono estendersi anche per 20 ettari. Questi crateri vengono fatti però su della roccia calcarea e quindi la roccia calcarea è porosa, quindi per fare in modo di raccogliere l'acqua dentro questi mega buchi devono essere foderati di plastica, quindi ancora abbiamo centinaia e centinaia e centinaia di metri quadrati di plastica che viene prodotta per impedire all'acqua sostanzialmente di ritornare al suolo. E allo stesso tempo poi appunto guardiamo alle logiche politiche e quindi nello stesso modo in cui un'azienda mineraria estrae appunto le risorse dal terreno e distruggendo appunto scavando e distruggendo allo stesso modo questo viene fatto per il megabacino.
Troisième élément qui vient renforcer cette idée d'extractivisme, en fait c'est l'extraction à proprement parler, le pillage des nappes phréatiques, parce que contrairement à ce que les porteurs de projets de gouvernement ont beaucoup longtemps voulu faire croire, y compris par des ministres qui disaient que les bassines étaient remplies par l'eau de pluie qui tombait dedans, c'est absolument faux. Ces bassines, elles sont remplies par extraction de l'eau des nappes phréatiques. Cette eau des nappes phréatiques, c'est le sang de la Terre. Et si on extrait ce sang de la Terre, bah c'est l'ensemble du système hydraulique et du cycle de l'eau qu'on remet complètement en cause. Et c'est cette zone humide, si riche et gagnante qu'est le marais Poitevin, qui se retrouve complètement pillée, complètement déstructurée, et où la biodiversité est en train de s'écrouler à vitesse grand V. Vous avez vu qu'on est arrivé avec ce convoi, avec une barque qui arrive de ce marais Poitevin et qu'on espère pouvoir naviguer sur la lagune de Venise dans les heures qui viennent. Également dans les symboles de ce convoi, il y a cette anguille qui tire la langue, cette anguille tout asséchée, qui vient symboliser l'impact sur la biodiversité.
Il terzo elemento che appunto ci fa riflettere e ci fa pensare alle esperienze di megabacini come attivismo è la distruzione e il saccheggio delle falde acquifere, perché appunto il presidente Macron dice che i megabacini verranno riempiti con l'acqua piovana, ma questo non è assolutamente vero, non si è in grado di raggiungere le quantità necessarie soltanto con l'acqua piovana.
Table ronde